Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, et c'est un dernier numéro et programme de cette série avec Gilles Berru. Et merci Gilles Berru, je rappelle que vous êtes professeur et chef du service du pôle de gériatrie au CHU de Nantes et que vous participez à ce rosaire, ce pèlerinage qui se tient à Lourdes. Au programme pour finaliser ce thème autour de ces différentes générations, de ce vieillissement normal ou anormal, enfin... nous terminons sur ce futur. Que faudrait-il pour ce futur et ces différentes générations et cette accélération aussi de la longévité dans le temps, Gilles Berru? Et merci de votre patience et merci de toutes ces interventions de la semaine.
Oui, c'est la question au regard des cinq émissions, enfin des quatre émissions précédentes, c'est avec ce constat-là. Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'avenir? Alors, en fait, on voit bien qu'on vient de tracer un périmètre très large avec un vieillissement qui dure 25 ans, qui est fait de beaucoup de liens sociaux, beaucoup d'interférences fortes avec la société, les autres générations, avec une place très particulière dans le lien social. Et si on prenait des termes politiques... dans le pacte républicain. Et puis, en même temps aussi, une nouvelle manière d'utiliser le système de santé par les particularités de l'âge qui est la chronicité. Donc, sur le premier aspect, c'est-à-dire du lien social, on voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre en place des organismes de coordination d'action qui ne sont pas dans le champ de la santé, mais qui sont dans le champ sociétal. Par exemple, la ville de demain, c'est une ville qui doit permettre dans les quartiers le lien social pour lequel marcher n'est pas dangereux, pour lequel il existe des espaces de relations intergénérationnelles, des relations sociales, qui vont à la fois diminuer la solitude et en même temps permettre aux autres générations de se rencontrer. C'est aussi tout le champ des mobilités, c'est-à-dire est-ce que le transport en commun d'aujourd'hui est adapté? Et on voit qu'en partie, non, pas du tout. Quelle est finalement la distribution des biens de consommation, de l'alimentation? Est-ce que finalement, il n'y a pas à réfléchir à une relation entre transition énergétique, écologique et transition démographique, en favorisant les circuits courts des producteurs locaux au lieu d'être sur la grosse distribution? Est-ce qu'on ne doit pas repenser l'activité culturelle qui doit être intergénérationnelle? Est-ce qu'on ne doit pas repenser la place des animations sportives quand on sait que 50% des utilisateurs des équipements sportifs municipaux ont plus de 60 ans, etc. Donc, on voit bien que derrière ça, il y a ce qu'on appelle une politique de la ville et une politique des territoires qui vont rentrer en interface avec des acteurs qui ne sont pas traditionnellement dans la gériatrie, comme évidemment les collectivités, mais aussi les services techniques, des transports, de l'animation, de l'animation sociale, de l'animation culturelle, etc. On voit aussi que l'habitat de demain doit changer, puisque si on doit rester dans notre habitat, malgré parfois des performances physiques diminuées, eh bien, il faut que chaque habitat soit adaptable. 50% des habitats à logement modéré, les HLM, sont habités par des plus de 60 ans. Donc on voit bien que il faut que les baignoires disparaissent au profit de douches italiennes. Et d'ailleurs, il y a une enveloppe d'1 milliard d'euros qui a été ouverte cette année pour permettre aux bailleurs sociaux d'accélérer cette mutation. Il y a aussi l'accès aux appartements, leur équipement, la possibilité qu'il y ait une numérisation des contacts extérieurs de tous les logements. C'est tout ce qu'on appelle la domotique. Donc ça, ce champ, il est vraiment important puisque il est au service de la qualité de vie, mais c'est aussi un segment de développement économique majeur. Et puis, dans ce qui concerne la médico-sociale et la santé, on l'a évoqué à la dernière émission, passer d'une médecine du paiement à l'acte à un parcours de soins, parcours de santé, intégrant le social et le médico-social, revoir l'EHPAD qui n'est plus une maison de retraite, mais un centre de soins pour des personnes âgées ayant des démences sévères, et faire émerger des alternatives au logement. C'est-à-dire qu'on ne soit plus entre le domicile et l'EHPAD, entre choisir l'un ou l'autre, mais qu'il y ait une sorte de panel d'offres.
Et c'est un vrai chantier, là, que vous décrivez.
Oui, c'est un chantier, mais qui, de toute façon, qui va être obligatoire. Quand c'est 30% de la population, ce n'est plus un choix, c'est une réalité. Vous savez, quand le soleil se lève le matin, on peut choisir le soleil ou pas le soleil, mais le soleil est là. Quand il y a 30% de la population qui a plus de 60 ans, c'est un peu comme le soleil, c'est-à-dire que c'est là. Voilà. Alors, on peut très bien dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il va y avoir une guerre des générations et qu'on va faire une grande maltraitance collective contre les personnes âgées. Mais ça, à mon avis, c'est quand même pas très républicain. Et puis, c'est pas chrétien et c'est rien du tout. Soit on se dit qu'on a une réalité qui est finalement une chance. Parce que derrière ça, ça représente à peu près 1% de points de croissance de PIB pendant 10 ans. Ça représente plus d'un million d'emplois. Donc, c'est peut-être une chance. Et pas que simplement une chance caritative et sociale, c'est aussi une chance économique. On a à faire des pactes territoriaux de financement des collectivités au regard de cette mutation. Et qui sont les bénéficiaires de cela ? Évidemment les personnes âgées, mais pas qu'elles. Parce que quand vous faites de la domotique, quand vous faites du transport, eh bien toutes les personnes en situation de handicap en bénéficient. Et comme la qualité de vie des personnes en situation de handicap s'améliore, elles vieillissent. Et donc, il y a le handicap vieillissant qui est de plus en plus présent. Et donc, derrière la personne âgée, c'est aussi valorisé, par exemple, la loi 2005 sur l'accessibilité. C'est favoriser la place de toutes les personnes qui se sentent marginales. De quoi parle-t-on là ? Bah, tout simplement de réussir l'inclusion sociale, c'est-à-dire vers un nouveau pacte social qui ne soit plus un pacte de confrontation uniquement, mais qui soit aussi un pacte d'union pour construire société ensemble. Et c'est ça qu'il y a derrière. C'est pour ça que l'universalité de la fragilité de l'âge est une vraie chance, en fait, pour nous.
Au fond, c'est une bonne nouvelle que vous décrivez.
En quelque sorte, mais qui nécessitera de se mobiliser.
Dernier mot pour finaliser la série, une loi qui se prépare.
Oui, il y a une loi qui s'appelle Grand Âge et Autonomie, qui se prépare et qui va justement, entre autres, voir l'avenir des EHPAD de manière différente et mettre en place la prévention autour d'un schéma de prévention qui est porté par l'OMS, qui s'appelle ICOP, et qui permettrait que chacun puisse parler le même langage pour une prévention efficace. Entre autres, il y a aussi d'autres aspects dans cette loi sur la valorisation des métiers, les parcours professionnels, beaucoup de choses en tout cas, et je pense que c'est une étape, mais une étape qui sera importante.
Une meilleure prévention pour une moins grande dépendance ?
Il y a la question de la dépendance, mais il y a aussi la question de la qualité de vie.
Merci, professeur Gilles Berru, de vos interventions. On peut retrouver ces différents enregistrements sur notre site internet, émission en podcast. Merci et au revoir.